Non, je peux attendre. Vous pouvez continuer à parler, je peux attendre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je suis heureux de vous accueillir au nom de Mme Bissonnette, la présidente directrice générale. Je suis Ghislain Roussel, secrétaire général et directeur des affaires juridiques et notamment responsable de la direction qui s'occupe des événements publics, Bibliothèque et Archives nationales, ainsi que des expositions. Voilà, donc, et je suis encore plus heureux d'être ici ce soir, et parce que nous tenons à souligner le début d'un cycle de conférences. À chaque fois qu'il y a un nouveau cycle de conférences qui émerge, dont, que ce soit l'Institut du Nouveau Monde ou l'Institut Thomas More, ce soir, c'est avec la Société des Dix, et je suis extrêmement fier d'accueillir la Société des Dix ici, ainsi que ses représentants, l'illustrissime historien, professeur Yvan Lamonde. Et donc, de vous accueillir à cette conférence, est-on quitte envers le passé, Bordua, Vadeboncœur et le dénouement de notre maître, le passé, prononcé par le professeur Yvan Lamonde, Université McGill. Cette conférence est offerte, comme je le disais, dans le cadre d'un partenariat entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Société des Dix. Je voudrais présenter sommairement notre partenaire, la Société des Dix, que j'ai beaucoup appris d'ailleurs en peu de temps sur la Société des Dix, qui date remonte à 1935, mais j'ai constaté que ça remontait à plus longtemps que ça et qu'il y a eu une interruption dans le temps au niveau de l'existence de la Société, qui regroupe 10 spécialistes de l'histoire du Québec et de l'Amérique française. Les travaux qui portent ainsi autant sur l'archéologie de la Nouvelle-France que l'histoire contemporaine, l'ethnologie, l'histoire des Amérindiens, de la politique, de la littérature, des idées, de la musique, de l'art et de la société de consommation. La société fait aussi paraître depuis 1936 les cahiers des Dix. Et ce cycle-là, et la conférence de M. le professeur historien Yvan Lamonde, sera suivie le 6 juin d'une conférence par le secrétaire de la société, M. Bernard Andrès, qui est professeur à l'Université du Québec, qui parlera de la littérature de 1760 à 1800. À partir de l'automne 2007, et toujours dans le cadre de ce partenariat, la Société des Dix présentera un autre cycle de conférences dont le contenu sera communiqué ultérieurement. Et je crois, si je ne me trompe, il y aura un cycle de conférences particulier qui va faire référence aux fêtes de Québec 2008. Monsieur Lamonde a-t-il besoin d'être présenté? Il est un ami de la maison, il a été associé, ceux qui ont vu l'exposition inaugurale de la Grande Bibliothèque, il a été associé de très très près aux travaux du comité scientifique de cette exposition. M. Lamonde est philosophe et historien de formation, il enseigne la littérature et l'histoire au département de langue et littérature française de l'Université McGill. Lauréat du prix du gouverneur général du Canada pour sa biographie de Louis-Antoine de Saulles et récipiendaire de la bourse de recherche à Quilam. Elle co-dirige avec Patricia Fleming de l'Université de Toronto le projet en trois volumes, français et anglais, d'une histoire du livre de l'imprimé au Canada, des débuts à 1966. Son essai « Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896 », volume 1, a obtenu le prix Raymond Klubanski de la Fédération canadienne des sciences humaines et sciences sociales pour le meilleur ouvrage de langue française en sciences humaines. Auteur d'une trentaine de volumes et d'une plus d'une centaine d'articles scientifiques, il travaille au tome 2 de l'histoire sociale des idées au Québec, 1896-1960. Et aussi, pour ceux qui sont intéressés, les conférences ainsi que celles de M. Lamonde sont captées et sont disponibles en balado-diffusion. Je ne vous demande pas d'ouvrir vos cellulaires, mais elles sont disponibles en balado-diffusion et il y a même le portail de BANQ. La causerie du professeur Lamonde sera suivie d'une période de questions qui sera plutôt, je pense, que vous souhaitez assez informelle. Alors, à vous la parole, professeur.
Bonsoir, Madame, Mesdames et Messieurs. Merci, M. Roussel, de cette présentation. Et vous voudrez bien transmettre à Madame Bissonnette la fierté des Dix d'avoir pu développer un partenariat avec Bibliothèque et Archives du Québec. Nous en sommes très fiers et nous essaierons d'être à la hauteur des attentes de votre institution. Je vais jouer ce soir sans filet, Pour la simple et bonne raison que Pierre Vadeboncœur est dans la salle. Il est à ma gauche avec Madame Vadeboncœur. C'est rare qu'un historien va aborder un sujet où le personnage concerné est toujours vivant et bien vert. C'est ce que j'appelle jouer sans filet. Le sujet que je vais aborder ce soir peut être parcouru par vous grâce aux collections de la Bibliothèque et des Archives nationales. Et donc, tous les ouvrages de Bordua, les ouvrages de Pierre Vadeboncœur et des essayistes des années 40 et 50 sont dans la collection de la Bibliothèque nationale, dans le catalogue IRIS, et vous pourrez toujours aller faire votre propre tour de piste. Alors, le titre décrit bien, je pense, ce que je veux faire pour susciter un échange entre nous. Bordua, Vadeboncœur et le dénouement de notre maître, le passé, qui, comme vous le savez, a été, depuis 1924, un leitmotiv des écrits de l'abbé Lionel Groulx. L'intérêt, au-delà de l'érudition possible du sujet, l'intérêt de cette recherche et de ses résultats, c'est de voir comment Bordua et Pierre Vadeboncœur remettent en cause une conception du passé et de la mémoire. Et avec quelles questions il nous laisse en regard de la relation que nous avons encore aujourd'hui avec le passé et l'histoire du Québec. Alors, en deux temps, j'arriverai aux questions que nous laissent ces deux penseurs, et je voudrais d'abord faire voir la position de Paul-Émile Bordua et des automatistes à l'égard du passé à travers une lecture du refus global, des textes de Bordua et de la correspondance de Bordua. Le refus global de 1948 s'ouvre presque par une phrase assez provocatrice qui se lit comme suit. Le passé dut être accepté avec la naissance. Il ne saurait être sacré. Nous sommes toujours quittes envers lui. C'est une phrase qui paraît claire, mais qui conserve, je pense, sa part d'énigme. Et il me semble que un historien qui lit et qui relit, comme je l'ai fait depuis une vingtaine d'années, à peu près chaque année, le refus global, il voit assez clairement un manifeste sur le rapport au temps et au passé. Il est assez surprenant de voir comment le refus global comporte davantage de réflexions civiques ou éthiques que de réflexions proprement plastiques ou esthétiques. Pour comprendre le propos général qui est le mien, il faut réaliser de façon globale ce que Bordua a fait eu égard à l'histoire de la peinture. Il faut réaliser que Bordua, part de la peinture religieuse, que ce soit de ses relations avec Ozias le Duc ou avec Maurice Denis, dont une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal rappelle une partie de l'œuvre. Donc, il faut bien voir que Bordua commence dans la peinture religieuse et que très tôt, autour de 1942, il est passé à la peinture non figurative. Il y a déjà là un signe dans l'histoire de la peinture québécoise, un signe d'un rapport particulier à l'évolution des choses. Si on part des figuratifs, que ce soit Clarence Gagnon ou que ce soit Horatio Walker, et que l'on retrouve Bordua et les automatistes dans la non-figuration, en passant par l'œuvre de peintres comme Adrien Hébert ou Marc-Aurèle Fortin, Adrien Hébert, qui a été le peintre, si on peut dire, de la modernité urbaine de Montréal, le peintre des silos à grains, le peintre de la rue Saint-Denis, de la rue Peel, des commerces le soir de Noël, et Marc-Aurèle Fortin, qui a été moderne peut-être plus dans la forme, par l'usage des formes et des couleurs que dans les thèmes, passant des beaux arbres de Sainte-Rose à des aperçus d'Hochelaga-Maisonneuve au moment de la construction du pont Jacques-Cartier. Bref, ce que je veux vous faire sentir par l'histoire de l'art même, c'est cette idée que Bordua commence dans la peinture religieuse, il suit Adrien Hébert et Marc-Aurèle Fortin, peintres des années 10, 20, des années 30, mais il passe, bref, très rapidement, de la peinture figurative à la peinture non figurative. Et il y a là une accélération dans l'histoire de l'art, pour ne pas dire un court-circuitage, hein, qui nous laisse parfois un peu pantelant face aux circonstances et aux raisons qui ont fait que Bordua a pu traverser aussi rapidement l'évolution de la peinture québécoise, passer de la peinture religieuse à la non-figuration. L'évolution de Bordua, elle est décrite dans une perspective d'histoire de l'art et le refus global, là où il est question d'esthétique, c'est précisément dans les propos où Bordua explique ce cheminement ou ce court-circuitage. Il explique comment il est lui-même passé dans ses connaissances et sa représentation de l'art européen, comment il est passé rapidement de l'impressionnisme de Cézanne, par exemple, au cubisme de Léger ou de Picasso ou de Braque, et ensuite à l'écriture automatique. Et c'est cette évolution d'un peintre qui s'est trouvé à Paris à la fin des années 20, dans le milieu de la peinture symbolique et religieuse de Maurice Denis, cet individu qui revient à Montréal à cause de la crise économique, qui revient en 1930, cet individu va se donner les moyens de connaissance de l'histoire de l'art et va cheminer à l'intérieur d'une décennie, va cheminer en comprenant les implications du passage de l'impressionnisme au cubisme. Et c'est ce qu'il appelle, dans une expression qui est importante pour nous. C'est ce qu'il appelle se donner une pleine possession du passé. Ce qui veut dire que dans la perspective de Bordua, il a l'impression de s'être donné une possession complète, satisfaisante du passé, eu égard au domaine qui l'intéressait à l'histoire de la peinture. Il a l'impression d'avoir compris le cheminement de l'impressionnisme au cubisme et conséquemment de savoir pourquoi lui et de plus jeunes peintres vont aller du côté de la peinture automatiste. Il a cette pleine possession du passé. Il faut bien comprendre aussi, et le refus global le rappelle abondamment, il faut bien comprendre qu'il y a un prix à payer pour cheminer avec une telle intensité et une telle vitesse. Et ce cheminement de Bordua et des automatistes est passé par ce qu'il appelle la libération des refoulements. Il évoque les craintes de ces peintres face au milieu où ils évoluaient. Il évoque ce qu'il appelle la chape de plomb du silence qui entourait ces automatistes rebelles à l'art québécois contemporain. Et vous vous souviendrez de l'énumération de ce qu'il appelle les peurs qu'ont dû affronter ces peintres pour cheminer et aboutir à une conception de l'art qui soit à jour, qui soit contemporaine. Je lis quelques-unes de ces peurs pour vous redonner l'atmosphère du refus global et faire comprendre quel mur rencontraient ces gens. Peur d'être seul, sans Dieu, et la société qui isole très infailliblement. Peur de soi, de son frère, peur de l'ordre établi, peur de la ridicule justice, peur des nécessités, peur de toutes les formes susceptibles de déclencher un amour transformant. Et il finit en disant, « À ce règne de l'angoisse toute puissante succède celui de la nausée », qui deviendra un thème assez connu. Le prix à payer pour se poser face aux conceptions traditionnelles et aux pratiques traditionnelles de l'histoire de l'art, il y a eu un prix à payer pour se poser devant cette tradition. Le prix à payer est celui d'un consentement à une aventure, qui se termine par, comme l'indique le texte, comme l'indique le manifeste, un refus global, un refus total. Le prix à payer pour aboutir à ce refus total et global des formes traditionnelles de pratique de l'art, ce prix a été fort important au moment même où les automatistes se mettaient à l'écriture picturale, à l'écriture plastique automatiste, et, comme vous le savez, par la suite. Ce refus global comportait des risques qu'ils ont assumés. Et déjà, je veux vous proposer que la difficulté des passages est aussi celle qui est la nôtre contemporaine. Nous allons y aboutir, que ce soit à travers l'expérience de Paul-Émile Bordua et des automatistes, à travers l'expérience de Pierre Vadeboncœur, il y a pour nous aussi une question du rapport que nous entretenons avec la mémoire et avec le passé. Il y a des gens qui appartiennent dans la salle à des générations qui vont clairement de l'après-guerre de 1945, des gens qui ont connu la guerre, qui ont connu l'immédiat après-guerre, de gens qui ont connu la Révolution tranquille, et des plus jeunes qui appartiennent peut-être à la génération X, sinon à la génération suivante qui n'a pas encore d'appellation contrôlée. Bref, demandons-nous comment nous-mêmes nous avons assumé ce passage du temps et quel rapport au passé nous pensons avoir développé. Il y a donc toujours des défis à nommer son rapport à l'histoire et au passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le Refus global, on retrouve le lexique qui va marquer les années 50 et 60. Évidemment, nous connaissons, nous, la fin de l'histoire, mais cette connaissance nous permet de voir, sans forcer le texte, comment le Refus global contient deux ou trois mots-clés qui seront des pierres dans la traversée des décennies d'après-guerre jusqu'à la Révolution tranquille. Que ce soit le mot « peur », Jean-Charles Harvé, en 1945, avait fait une conférence sur la peur, en 1945. Bordua reprend le terme en 1948, et le philosophe et poète Jacques Brault va reprendre cette idée de la philosophie de la peur au début des années 60. Bordua utilise aussi dans le Refus global le mot « risque ». Et il y a donc là une filiation qui n'a pas besoin d'être voulue ou consciente, mais ce que Pierre Vadeboncœur développera comme la ligne du risque, quelle que soit la connaissance immédiate que Pierre Vadeboncœur pouvait avoir ou pas du Refus global, cette préoccupation autour du risque est un moment important des années 40 et 50. Bordua s'est mis à jour. Dans le domaine qui était le sien, Bordua avait le sens du présent. Il était adéquat à la recherche esthétique, aux pratiques esthétiques qui étaient celles d'un certain nombre de ses contemporains. Il était à jour. Et ce sens du présent que l'on voit très bien énoncé dans le domaine qui est le sien, en art, ce sens du présent, Bordua, là aussi, d'un strict point de vue, disons, historique. Le Refus global évoque le tragique des deux guerres qu'on avait connues avant le Refus global. Bordua évoque les camps de concentration, Et de façon encore plus précise, il évoque la guerre d'Espagne de 1936. Bordua est quelqu'un qui a une conscience historique du présent esthétique et du présent, appelons-le, civique. Et son objectif a toujours été, comme il le dit, de se mettre au diapason des générations présentes. Et pour ce faire, dans le refus global, Bordua nous indique comment lui et des contemporains pouvaient se mettre au diapason des générations présentes, par un double refus, ce qu'il appelle le refus du goupillon et de la tuque. Le refus du goupillon et de la tuque, c'est le refus du goupillon qui sert à jeter l'eau bénite à partir d'un bénitier et qui évoque, bien sûr, la tradition religieuse canadienne-française et le refus de la tuque, c'est le refus du paysan d'autrefois, qui n'est pas nécessairement la tuque du patriote de 1937. Bordua évoque très rapidement ces patriotes de 1937. Et pour lui, une façon de se mettre au diapason des générations présentes, c'est de voir clair, en refusant le goupillon et la tuque, en refusant une certaine tradition religieuse et en refusant un nationalisme traditionnel. Bordua est conscient que dans cette démarche qu'il explique dans le refus global, il est conscient de se placer devant un choix, soit de se conformer au passé, ou soit de le rejeter globalement. Pour lui, le rejet du passé signifie le rejet d'un passé conçu comme répétition. Répétition qui détermine un type de rapport au passé. Et Bordua me semble laisser le lecteur du refus global hier et aujourd'hui avec deux questions qui sont ma formulation, mais qui me semblent rendre justice à la démarche et aux conclusions de Bordua. La première question, comment dépasser le passé? Comment fait-on pour prétendre dépasser le passé? Comment s'y prend-on? Est-ce qu'on réussit jamais à dépasser le passé à moins de le rejeter globalement? Deuxième question, et celle-là, Bordua la pose explicitement dans le refus global. Qu'apporte l'art et l'histoire de l'art à l'intelligence? Autrement formulé, comment la démarche des automatistes, dont les tenants et aboutissants sont explicités dans le refus global, comment cette démarche artistique peut-elle être transposée dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de la pensée, bref, dans un domaine autre que celui de l'art? Et c'est là que Pierre Vadeboncœur me semble prendre le relais. J'avais mis la date de naissance de Pierre Vadeboncœur sur mon texte, mais je vais oublier la chose. Sinon, pour dire que Pierre Vadeboncœur, qui finit ses études au Collège Brébeuf à la fin des années 30, qui collabore occasionnellement à l'Action nationale en 1942-1943, et qui va collaborer à Cité libre, qui, comme vous savez, est lancée en 1950, je rappelle ces jalons simplement pour que vous voyez comment Pierre Vadeboncœur, qui est avec nous, peut chronologiquement, naturellement, prendre le relais de Bordua. Bordua, bien sûr, qui est plus âgé que lui, mais qui publie avec les signataires, qui publie le Refus global en 48, qui démissionne de l'École du meuble l'année suivante et où il publie Projection libérante, qui va partir pour les États-Unis et l'Europe, et je pense qu'il décède en 1960. Bref, vous voyez comment Pierre Vadeboncœur peut prendre le relais du refus global. Il est donc, il n'est pas un contemporain immédiat de Bordua, mais il est actif intellectuellement au début de sa carrière, au moment où ses réflexions de Bordua viennent d'être lancées. Je pense que vous vous êtes déplacé ce soir pour entendre quelque chose qui n'a jamais été thématisé. J'en suis fier. Ce sont des lectures répétées et répétées de Bordua et de Vadeboncœur qui m'ont permis de voir cela. Mais je pense que jamais, dans l'histoire intellectuelle ou littéraire, on a vu comment Vadeboncœur avait pris le relais de Bordua. Et très précisément au sens où Bordua souhaitait presque qu'on le continuât, il me semble que Pierre Vadeboncœur a justement, jusqu'à la publication de son ouvrage « La ligne du risque » en 1963, il me semble, et c'est ça qui n'a jamais été vu, montré, il me semble qu'il a précisément essayé de faire voir ce que la réflexion de Bordua et des automatistes sur l'art pouvait apporter à l'intelligence, à la pensée critique. Et cela me semble nouveau, et vous verrez si, comme dit le guide Michelin, cela valait le déplacement. Il me semble que, pour l'essentiel, l'entreprise de Pierre Vadeboncœur, avant la ligne du risque, avant 1963, il me semble que son entreprise a été de décoder le refus global, et le mot revient chez Pierre Vadeboncœur, de comprendre ce qu'avait été la méthode de Bordua. La façon de voir, de penser, la façon de concevoir une transformation de la pensée et de la pratique artistique de Bordua. Il me semble que l'œuvre, les écrits de Pierre Vadeboncœur avant la ligne du risque et certains textes de la ligne du risque sont précisément des tentatives de comprendre la généralisation, comment on peut généraliser cette démarche du point de vue d'un essayiste. Comment dépasser le passé, mais non plus seulement dans le domaine de l'art, mais dans le domaine du politique, dans le domaine intellectuel. Parmi les premiers textes, dans la première moitié de la décennie de 1950, la critique que Pierre Vadeboncœur fait du passé passe par une dénonciation de ce qu'il appelle l'irréalisme de la culture québécoise. Pour lui, l'irréalisme, c'est le rapport à la réalité qui est induit, qui est généré par un trop grand poids du passé. Et la personnification de ce réel, hein, quasi totalement identifié au passé, la personnification de cela, c'est l'abbé Lionel Groulx, qui, comme je le disais, depuis 1924, va commencer à publier un certain nombre d'ouvrages qui auront en commun ce titre « Notre maître, virgule, le passé ». Le référent, la référence, c'est le passé, c'est la tradition. Et pour Pierre Vadeboncœur, le problème est justement là, c'est que c'est cette tradition, c'est ce passé répétitif qui fait office de réel, hein, de faux présent perpétuel. Et Vadeboncœur montre au fil de ses essais comment cette tradition est de la répétition. De la répétition sans actualisation. Pour faire référence à ce qui est la devise du Québec, hein, dans cette pensée où notre maître, c'est le passé, on se souvient de se souvenir. On ne sait pas très bien de quoi on se souvient, mais on se souvient de se souvenir. Et Vadeboncœur montre comment cet irréalisme, hein, d'un réel qui est une référence à la tradition, mais sans nouveauté, comment, à vrai dire, la survivance peut se faire sans nous. Il y a comme une police d'assurance sur la vie collective, hein, ça c'est ma métaphore, il y a comme une police d'assurance sur la vie collective, une fois qu'on sait quel est notre maître, hein, les choses peuvent se dérouler, hein, sans qu'il y ait comme besoin d'introduire des éléments véritablement nouveau. Et la question que Pierre Vadeboncœur me semble poser à travers ses textes, c'est si on n'est pas d'accord avec cette idée du répétitif, hein, de reprendre l'idée qu'il y a un maître et que c'est le passé, si on n'est pas d'accord avec ça, le défi est de savoir comment on entre dans l'histoire, comment on sort du passé et comment on entre dans le présent. Autre formulation qui est la mienne, mais qui me semble respecter la pensée de Pierre Vadeboncœur, la question pourrait être la suivante. Comment le maître du passé, qui est Groulx, comment le maître du passé, qui avait formulé cette idée de notre maître le passé, comment peut-il être lui-même dépassé? Ici, je veux faire une distinction. Je ne veux pas m'identifier à ceux et celles qui font porter à Lionel Groulx tous les péchés d'Israël. Hein? Lionel Groulx a été un prêtre, un historien, un éveilleur. Et sans lui, l'évolution du nationalisme des années 50 et de la Révolution tranquille, sans lui, je pense que l'évolution du nationalisme aurait été autre. Donc, je fais porter à Groulx cette idée globale de notre maître le passé parce qu'il en a été le formulateur, l'énonciateur, hein, qu'il a personnifié cette idée. Mais comprenez bien, et des questions pourront m'aider à vous préciser où je me situe par rapport à lui, mais comprenez bien que je ne fais pas porter à Groulx tous les problèmes de l'histoire du Québec ou du présent du Québec, et je ne suis certainement pas de ceux qui militent en faveur de la disparition de l'appellation Lionel Groulx pour la station de métro, hein, comme certains l'ont fait. Mais de façon globale, on pourrait prendre Groulx comme étant un des plus beaux cas pour analyser comment les Québécois contemporains ont conçu leur rapport au passé. Les tensions qui peuvent exister entre différents citoyens à propos de Groulx me semblent indicatives du problème de savoir que si on refuse globalement le passé, hein, est-ce qu'on peut refuser globalement Groulx? Et si on refuse globalement Groulx, on reste avec quoi comme matière de passé ou matière historique? Comprenez bien que je ne suis pas en train de préparer le terrain à quelques réhabilitations ou à quelques monuments. Mais Groulx a été, comme disait mon vieux père, le refugium peccatorum, hein, le refuge de tous les péchés. Groulx a le dos large. Mais notre rapport à Groulx depuis une quinzaine d'années me semble indicative d'une difficulté que nous avons à voir ce qui est mort et ce qui est vivant dans le passé québécois. Alors, pour sortir de cet irréalisme, Pierre Vadeboncœur propose rien de moins que ce qu'il appelle une révolution psychologique à opérer dans le rapport de notre fidélité au passé. Autre beau terme porteur de questions difficiles à résoudre. Qu'est-ce qu'être fidèle? Qui veut être fidèle? Comment et pourquoi est-on fidèle? En enlevant ou pas les connotations religieuses ou amoureuses, hein, mais fidèle à quoi et pourquoi? Pour Pierre Vadeboncœur, le signe, un des signes les plus évidents du fait de cet irréalisme, de ce passé répétitif, c'est que pour lui, qui finissait le cours classique à la fin des années 30, qui a donc connu la première élection de Maurice Duplessis en 36, qui a été de cité libre au moment où M. Duplessis était revenu au pouvoir, qui a connu la relance de l'Action française à travers le lancement de l'Action nationale, dont la spécialiste est avec nous, Pascal Ryan, pour Pierre Vadeboncœur, l'évolution du nationalisme tel qu'il l'a connu était précisément indicative du fait de cette répétition à vide. Hein? Parce que pour lui, il est clair qu'après l'échec d'un certain indépendantisme du début des années 30, que le nationalisme redevenait un nationalisme peu soucieux du pouvoir. Et quand le nationalisme était identifié au pouvoir, ce fut pendant longtemps le nationalisme conservateur de M. Duplessis qui a pris la formule de l'autonomie provinciale qui a eu ses effets pendant un certain temps, mais une formule qui est elle-même devenue répétitive. Pour Pierre Vadeboncœur, longtemps, le nationalisme ne visait pas le pouvoir et le nationalisme qui était près du pouvoir était un nationalisme creux, répétitif. Alors, Pierre Vadeboncœur se demande quelle est la méthode de, non pas la recette, on se comprend bien, quelle est la méthode de Bordua? Comment... Il se demande si le type de dépassement du passé qui a été possible pour Bordua en art, si ce type de dépassement est possible dans d'autres domaines. Et je vais donc vous lire un passage d'un texte qui s'intitule... qui est tiré de Bordua ou la minute de vérité de notre histoire dans Cité libre, en 1961. Alors, il se demande si l'art représente une démarche singulière ou si elle peut être généralisée ou transposée. Je cite, « Avoir de la vérité dans nos rapports avec la vérité. » L'art qui est un acte vrai, hein, l'art dont c'est le propos de dénoncer tout compromis, est fait d'actes spirituels absolument vrais et n'ayant pas d'intérêt à ne pas l'être vrai. C'est peut-être le seul domaine où une extrême liberté existe, donc où une extrême vérité peut exister. Exiger d'abord de n'être que vrai, c'est à peu près le contraire de ce que notre culture demande de nous. Pierre Vadeboncœur, qui depuis s'est beaucoup intéressé à l'art, hein, dans ses écrits des 10 ou 15 dernières années, s'y intéresse manifestement déjà au point de se demander si cette démarche de l'art est une démarche singulière ou plus globalement indicative de d'autres types de dépassement. Et assez rapidement, il se demande si quel est le prix du refus global de la rupture. Un texte qui s'intitule « La revanche des cerveaux » et qui se lit comme suit. Si on a à l'esprit l'idée du refus global, l'idée de la rupture d'avec le passé. Mais rompre mène à quoi?
Rompre est sans doute le premier mouvement auquel notre culture pousse notre liberté. Rompre avec tous les gardiens de notre orthodoxie globale. Mais rompre est un acte violent, au-delà duquel il y a risque de ne pas retrouver d'assiette. Rompre n'est pas se détacher, car le détachement suit la formation de liens nouveaux. Mais chacun, chez nous, se trouve plus ou moins dans la situation d'un homme qui a des attaches qu'il ne désire plus, mais dont il peut à peine se libérer parce qu'il n'en a pas formé d'autres encore. Vous voyez l'ampleur du problème que pose la position de Bordua, la position de refus global d'une rupture totale. Que se passe-t-il quand, si en dehors de l'art, de la pratique artistique, que se passe-t-il si on décide de rompre sans savoir encore à quoi on peut s'attacher ou se rattacher une fois la rupture faite. Et il me semble que ce débat entre Bordua et Pierre Vadeboncœur, débat qui se joue entre, si vous voulez, 1945 et 1965, il me semble que ce débat, il est encore vivant. De toute façon, il le sera continuellement. J'allais utiliser le mot toujours, mais ça n'existe pas dans le vocabulaire d'un historien en principe. Les historiens sont les moins bons prophètes, alors le mot toujours à bannir. Mais la question va se poser, elle se pose encore pour nous, et il y a de bonnes chances qu'elle se pose pour nos étudiants ou nos enfants. Parce que la question est la suivante, il me semble. Si la tradition a été à ce point pesante, lourde, emprisonnante, contraignante, impérialiste, si le passé a été tel, y a-t-il encore quelque chose à sauver de ce passé? Ou si la tradition pesante l'a été tellement longtemps, grâce à des structures de maintien, que lorsqu'il y a un mouvement qui crée un seuil au-delà duquel il y a une masse critique de gens qui n'acceptent plus ou ne veulent plus cette pesanteur du passé, qu'est-ce qui demeure acceptable de ce passé? Comment est-il possible de jeter l'eau du bain en ne jetant pas le bébé avec? Autrement formulé, le passé me semble avoir paru tellement dommageable et inacceptable dans la mémoire des Québécois d'après 1945, du moment de la Révolution tranquille, ce passé était tellement peu intéressant, tellement objet de répulsion qu'il n'a pu qu'être rejeté globalement. Que ce soit dans la formulation de Bordua ou que ce soit dans la nôtre, quel meuble ont pu être sauvé, s'il y avait des meubles à sauver. Je ne suis pas en train de proposer une réponse à la question. Mais il me semble que travaillant actuellement sur les années 30 à 1960, pour le tome 3 d'Histoire des idées, c'est une période où on voit se poser cette question-là. Surtout qu'à partir de 1960, j'étais témoin, c'est ça pourquoi je m'arrête à 1960. Mais donc, c'est à la fois comme historien et comme citoyen que je vois comment l'entrée dans la modernité a signifié pour beaucoup l'identification d'un passé inacceptable à jeter, et ça a été un rejet sans que l'on sache, comme Pierre Vadeboncœur le suggère déjà en 61, sans que l'on sache pour autant sur quelle rive aboutir, à quelle attache pouvoir recourir. Ce qui a été, pour moi, un des traits géniaux de la réflexion de Pierre Vadeboncœur comme essayiste, on le voit en exergue au début du texte de La ligne du risque. Pierre Vadeboncœur met en contraste deux citations qui vont lui permettre de proposer quelle est sa conception d'un rapport au passé, ce qu'il va appeler l'option pour la ligne du risque. Il met en exergue deux citations. La première, « Notre maître, virgule, le passé », Lionel Groulx. Et en dessous, il met, tiré du refus global, cette phrase que je vous ai lue d'entrée de jeu, « Le passé dû être accepté avec la naissance, il ne saurait être sacré, nous sommes toujours quittes envers lui. » Pour un historien qui fait son miel des essais, des essayistes, c'est un des plus beaux, pas raccourcis, mais un des plus beaux arrimages de l'histoire du Québec. En 62, lorsque le texte paraît dans la revue Situation, Pierre Vadeboncœur a bien vu quel était l'enjeu. Il l'a épinglé comme un magnifique papillon bleu. Et depuis ce temps, nous ne pouvons pas ne pas essayer de voir clair à partir de ça. La mise en rapport de Groulx et de Bordua, dès 1962, cette chose est claire. Et nous sommes, nous, à plus de 40 ans de cette analyse et de cette vision, et je me demande s'il y a un texte qui prendrait aujourd'hui un relais intelligent de cette ligne du risque. Bordua avait écrit « Le risque total dans le refus total ». Dans le refus global, pardon. L'idée du risque, elle est reconduite par Pierre Vadeboncœur. Si on veut lui demander tantôt quel est le rapport génétique avec Bordua, on pourra le faire, mais en un sens, c'est peut-être secondaire. L'important, c'est qu'il y a eu cette sensibilité à l'idée du refus global et du risque total et la proposition d'assumer dorénavant cette ligne du risque. Qu'est-ce que c'est la ligne du risque? C'est la ligne de la liberté. La liberté est l'obligation de voir clair, de prendre parti. Et Pierre Vadeboncœur voit dans voit ce sens nouveau de la liberté dans l'esprit d'indépendance de la fin des années 50 et du début des années 60, et un esprit d'indépendance qu'il voit dans la poussée séparatiste du début des années 60, mais qui, esprit d'indépendance qui lui semble singulièrement plus large que ce qui porte le projet politique séparatiste ou indépendantiste. On pourrait regarder l'itinéraire de... ça fait une heure et demie que je cause? Une heure? Une heure? Bon. Je vais vous passer le micro dans quelques minutes. On pourrait voir l'itinéraire intellectuel de Pierre Vadeboncœur comme étant la preuve du mouvement en marchant. C'est-à-dire que Pierre Vadeboncœur, la traversée intellectuelle de Pierre Vadeboncœur est comme la concrétisation de sa réflexion sur ce rapport au passé, ce rapport au nationalisme. Faut-il rappeler que Pierre Vadeboncœur a été de l'équipe de Cité libre et que Cité libre a été une cité suffisamment libre pour être le forum de gens qui pensaient différemment de la trame dominante de la revue, hein, qui était une critique du nationalisme et la formulation d'un nouveau fédéralisme. Mais il faut bien voir qu'il y a eu dans Cité libre, mais c'est surtout l'expérience, le cheminement de Pierre Vadeboncœur que je vais évoquer, je pense que la limite de la critique que Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau ont fait du nationalisme tient au fait qu'ils n'ont pas été capables de dépasser le poids et l'odieux du nationalisme qu'ils connaissaient au moment où ils en faisaient la critique et qui était le nationalisme personnifié par notre maître le passé et par Maurice Duplessis. Je pense qu'un des grands apports de Pierre Vadeboncœur, avec Marcel Rioux, avec Fernand Dumont, dans Cité libre, aura été de montrer que l'on pouvait faire une critique très forte du nationalisme tel qu'on le connaissait au milieu des années 50, mais qu'il était pensable, hein, de formuler un nationalisme de gauche, démocratique et socialiste qui puisse être acceptable. Il y a là un signe, hein, d'une démarche, d'une méthode qui était appliquée à un autre domaine que l'art. Et Pierre Vadeboncœur nous donne un exemple dans un texte qui nous permet de voir comment, Pour lui, la sensibilité politique des indépendantistes du début des années 60 ressemble à la sensibilité des automatistes. Lui qui cherche comment la méthode de Bordua, comment la démarche de pensée de Bordua et des automatistes pouvait être inspiratrice dans un domaine plus large que l'art, voici un texte qui nous dit, qui nous fait sentir la ressemblance qu'il voit dans les façons de faire de ces jeunes ou moins jeunes indépendantistes du début des années 60. Le fait est que les séparatistes, quant à eux, ne se sont nullement souciés du rythme de l'histoire et qu'ils sont intervenus dans nos affaires avec confiance et audace, produisant les remous et les effets que l'on sait. On ne tire pas précisément pile ou face, mais leur méthode est de multiplier le hasard, d'ajouter autant de causes qu'il se peut dans l'histoire et de faire que, dans ce jeu ainsi accéléré et compliqué, des chances accrues se fassent jour et que cette agitation passionnante et que de cette agitation passionnante naissent des concours de circonstances qu'une action trop linéaire ne pourrait jamais provoquer. C'est comme une description de l'écriture automatique. Hein? Une créativité nouvelle, hein? Un esprit d'indépendance tout aussi large que celui des automatistes, mais appliqué dans un autre domaine. Un autre passage où il montre comment on a pu inventer une autre tradition. Et là, il donne l'exemple, non pas seulement du Arienne, par exemple, mais l'exemple de Parti pris, qui commence à apparaître en 1963, l'exemple du mouvement laïque de langue française, qui date de la fin 59 au début des années 60, et l'exemple de quelques partis socialistes, partis des années 60, qui ont incarné nouvelle façon de faire. Or, on peut dire que nous avons finalement suppléé à la tradition. J'ignore à quel degré, mais ce qui se passe depuis quelques années est à cet égard typique. Nous nous sommes mis à être libre et créateur, comme cela s'était passé pour la peinture. Cet épisode est assez étonnant. L'histoire consiste quelquefois à prendre le contre-pied du passé. C'est même le seul recours pour ceux qui n'ont pas de tradition. La fidélité du passé résultait d'une prédication particulièrement inepte pour un peuple qui n'avait pas de tradition. Il fallait faire un saut subit dans l'inconnu. Il fallait prendre pour fin ce qui n'avait pas encore de commencement. Cette méthode n'a pourtant pas gagné certaines personnes sur qui tout indiquait au contraire que nous pourrions compter. Et là, c'est une référence à l'équipe de Cité Libre. Il y a là, donc, je pense, des pistes et des formulations de ce qu'a pu être la méthode de Pierre Vadeboncœur. Et je veux vous lire un dernier texte où il montre comment, où Cité Libre avait mené les milieux intellectuels et où une revue, un groupe comme Parti pris allait prendre un relais radicalement différent. Avec Cité libre, l'analyse avait succédé à la répétition machinale des idées du passé. Avec la génération nouvelle, l'innovation a doublé la simple analyse. Cité libre correspondait à une inquiétude, Parti pris correspond à un appétit. La jeune génération ne nous ressemble guère, ceux de Parti pris en 63. Elle veut mettre tant de choses nouvelles dans l'histoire qu'il importera peu que celle-ci ait dormi pendant 100 ans. Elle profite d'un néant pour essayer de tout bâtir. Elle considère que la réalité chez nous est déjà une table rase et elle construit dessus cette nouvelle réalité. Ni le passé ni la critique du passé ne l'intéressent autant que d'inventer des institutions nouvelles. Voilà comment, il me semble, qu'on a dans ces deux expériences, celle de Bordua et dans l'itinéraire intellectuel de l'essayiste Pierre Vadeboncœur, voilà comment, depuis 1948 et de façon continue, dans des domaines différents et complémentaires, comment on a essayé de dénouer le passé. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce que nous, contemporains, avons fait mieux à délier le passé qui est le nôtre? La question est posée. Tout comme est posée la question de savoir si nous avons le sentiment que la ligne du risque a été prise ou si la ligne du risque demeure sans que soit levé le risque par un parti pris qui soit net. Alors voilà deux propos qui étaient fondamentalement les miens. Montrer comment l'œuvre de Pierre Vadeboncœur est d'une ampleur équivalente à celle de Bordua dans un autre domaine, et montrer comment tous deux ont porté des questions sur le dénouement du passé et de la tradition qui ne peuvent pas ne pas nous interpeller encore. Je vous remercie de votre présence et de votre attention et je vous invite à commenter, à dire les désaccords que vous pouvez avoir avec mon analyse, à expliciter, à répondre à la question de savoir si nous avons trouvé cette méthode élaborée aujourd'hui pour dénouer le passé. Mon hypothèse étant que l'édifice qui s'est construit du rapport des Québécois contemporains au passé est un édifice où les fondations ne sont absolument pas évidentes. Demandez-vous comment les baby-boomers se sont situés par rapport à leurs devanciers. Qu'ont retenu les baby-boomers de ceux qui les avaient précédés? Que veulent retenir les gens de la génération X de la génération dite lyrique des baby boomers. Que retient la génération de ce que j'appellerais la culture numérique, hein? Les branchés? Que retiennent-ils, eux, de la génération X? Qui retient quoi des baby boomers? Qui retiennent quoi de leurs prédécesseurs? Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un, un texte, des textes, qui pour vous constitue la formulation la plus satisfaisante de là où vous êtes par rapport à ce que vous pensez être l'héritage du passé que vous acceptez encore? J'espère que la question n'est pas trop lourde, mais il me semble que c'est à ce niveau que la réflexion de Bordua et de Pierre Vadeboncœur nous situe.
Je me risque. Marc Brière. Monsieur le professeur, vous nous avez fait un exposé passionnant, émouvant, et je pense que vous posez les bonnes questions. Je pense connaître assez bien mon ami Pierre Vadeboncœur, pas aussi bien que vous, je ne relis pas son œuvre chaque année, mais je l'ai relu récemment. Pour moi, Pierre Vadeboncœur est un de nos grands essayistes. J'ai même écrit un jour que c'était le plus grand, mais il n'était pas d'accord. Alors, j'ai dit un des plus grands, ça c'est moins blessant pour sa modestie.
Un des.
Mais moi, il m'a toujours paru que Vadeboncœur a été le penseur de la Révolution tranquille. Et comme cette Révolution tranquille, à mon sens, n'est pas achevée, pour ma partie de réponse à votre question, je pense que Vadeboncœur, qui est toujours avec nous, non seulement physiquement, mais par sa plume abondamment dans différentes revues et différents journaux, est toujours le penseur de cette révolution tranquille en marche, qui n'est pas complétée. Nous ne sommes pas libérés d'un certain passé. Nous avons fait pas mal de chemin, mais il en reste encore beaucoup à faire, d'où ces difficultés générationnelles, parce que, entre-temps, je crois comprendre qu'on a mal enseigné l'histoire et que parfois on s'égare dans nos cheminements un peu complexes comme peuple. Alors, mais il m'a semblé, et là je mets un peu en cause votre analyse, que Vadeboncœur, comme la Révolution tranquille d'ailleurs, qui n'était pas une révolution, mais une réforme accélérée, n'a jamais, comme Bordua, puis si je me trompe, il me corrigera, adhérer à un refus global. Il y a une continuité. Vadeboncœur ne nie pas cette continuité dans la trame historique canadienne-française et par la suite québécoise. Il y a, sur, le, Sur le plan artistique, Bordua pouvait faire un refus global et partir de zéro, faire table nette. Mais Vadeboncœur ne fait pas ça. Il construit sur une autre forme de nationalisme. Hein? Il n'y a pas de rupture non plus sur le plan religieux. C'était l'époque des catholiques de gauche, n'est-ce pas? Jean XXIII n'était pas loin. Il y avait des nuances. Oui, mais on n'était pas tous ni communistes, ni athées à cette époque-là. La Révolution tranquille était encore très, très... voulait laïciser la société, mais était encore imprégnée de l'esprit de Mounier et de la revue Esprit, de tout ça. Par conséquent, moi, je n'ai pas ressenti, en tout cas personnellement, bien que assez fortement engagé dans tout ce mouvement de la Révolution tranquille sur le plan politique, je n'ai pas senti de rejet global. J'ai senti un appétit énorme de libération de, vis-à-vis certaines formes du nationalisme traditionnel, du régime Duplessis, et de la nécessité d'entrer dans la modernité, de construire l'État, etc. Mais en continuité de l'histoire.
D'accord.
Alors, un peu trop long.
Commentaire et question m'invitent à revenir sur cette idée que je ne crois pas avoir dit que Pierre Vadeboncœur avait repris l'idée du refus global. Si je prends la peine de souligner qu'il se met à l'enseigne de la ligne du risque, le titre dit bien ce qui est assumé et du refus global et ce qui n'est pas nécessairement reconduit. Quand Pierre Vadeboncœur se demande ce que rompre veut dire, avec quelles conséquences et quels risques, j'ai lu explicitement le texte, on voit bien que la réflexion est fortement inspirée dans beaucoup de domaines de la démarche de Bordua, de la réflexion de Bordua. Mais Pierre Vadeboncœur, par sa démarche même, montre qu'il n'a pas tout refusé globalement. C'est une démarche qui a assumé ces moments. Quand Pierre Vadeboncœur est momentanément est un antinationaliste momentanément, comme d'autres rédacteurs de Cité Libre, hein, il est antinationaliste, il n'est pas pour autant fédéraliste sur une courte période. Mais c'est le même individu qui a participé dans Cité Libre à la critique du nationalisme, hein, tel qu'on le connaissait et qu'on l'avait connu à l'époque, quasi depuis un demi-siècle. Mais en même temps, c'est l'individu qui se retournait sur cet antinationalisme et qui essayait d'en formuler un nouveau, y compris en y intégrant la dimension démocratique que souhaitaient les gens de Cité Libre, mais encore une fois, en allant plus loin que l'inclusion des valeurs démocratiques dans son nationalisme, en disant, au début des années 60, en disant, aujourd'hui, la démocratie n'a pas de sens si nous ne la poussons pas jusqu'au socialisme. Ce qu'il faut bien comprendre. Alors, vous voyez, Pierre Vadeboncœur sait de quoi relève la démarche du refus global. Il l'a compris. Il a compris la radicalité dont a besoin l'esprit critique pour avancer au Québec, pour sortir de l'irréalisme, comme il disait. Mais il a fait la preuve en marchant qu'il y avait moyen d'être critique, hein, de développer un sens du réel, hein, tout en tentant de reformuler la donne. Et ce qu'on mentionne pas souvent, c'est que si Pierre va de bon cœur à penser autrement, c'est, à mon avis, qu'il a pensé syndicalement. Je pense que, parce qu'il est, au niveau intellectuel et au niveau de l'écriture, il est la version, si je peux dire, réflexive de tout un combat qui a été mené pendant la guerre et après la guerre, qui a été mené par le mouvement syndical. Un combat qui a donné des grèves importantes à Sorel, à Thetford, à l'Alliance des profs de Montréal. Mais Gérard Picard a mené un combat. Pierre Vadeboncœur a mené un combat dans le même milieu, mais il l'a mené aussi au niveau de la réflexion et de l'écriture. Et je pense que cet esprit critique inédit vient pour beaucoup de son choix d'avoir été un militant syndical, un avocat dans le milieu syndical. D'autres vues de la chose, d'autres perceptions? Oui, Pierre Vadeboncœur, il y a peut-être des...
Charles, besoin de faire le point un peu. Non pas... Cette conférence, moi, je la trouve magnifique. C'est une réflexion approfondie sur toute une période, sur certains acteurs de cette période. Et c'est juste. C'est un texte qui est pensé, je crois, justement. Mais je... Un texte comme ça, je suis pas habitué beaucoup à recevoir des conférences par la tête comme celle-là. J'ai le besoin de faire un peu le point parce que, à cause de l'ampleur de cette réflexion, ça me campe en un personnage qui me ressemble assez peu, psychologiquement. Je n'ai jamais été un rebelle, je crois. Et dans les années 40, il y a des choses, par exemple, quand vous parlez de Bourdieu, mon approche de Bourdieu, c'est une approche vécu à cause de mon amitié pour certains de ses contemporains, enfin ses contemporains qui avaient mon âge, donc qui étaient plus jeunes que Bourdieu. Peintres, comme type comme Guiviau, par exemple, ou Gabriel Filion, et un groupe aussi, un groupe d'amis, rien de plus, là, qui avec lesquels on avait beaucoup de plaisir. Je ne suis pas un type comme Dumont, qui est un philosophe, un grand philosophe. Moi, ma pensée est comme par accident. À l'occasion des événements, ou à l'occasion de ce que je vis, de ce que j'ai vécu. Vous avez bien fait de souligner le syndicalisme. J'ai entré au service de la CSN, c'était CC à l'époque, comme on l'appelait, en 50, puis j'en suis sorti 25 ans plus tard. Donc, ça a occupé énormément de... Et ça, quand je dis, je ne pensais pas les choses à partir d'un point de vue de philosophe, de carrière, ou mais pas du tout. C'était des réactions aux événements que je vivais, aux situations du Québec, et ainsi de suite. Voilà. C'est un peu ma carrière, ou enfin ce que j'ai pu écrire, en un certain sens, c'est quelque chose d'improvisé. Et les amis que nous avions, dont certains étaient amis aussi avec Bordua, il y a tout le mouvement de la peinture des années 40, qui était libérateur. Alors, c'était rien de programmé, ça. On a pigé là-dedans, là, comme on a pu. C'est comme à Célib. Je me souviens des premières années de Célib. Nous étions quelques-uns, comme moi, je ressentais les choses comme ça. On envoyait de temps à autre un article là, en se disant, ben, ça n'aura pas de conséquences. On le fait par acquis de conscience, c'est tout. Puis ça n'allait pas plus loin que ça. Mais le résumé que vous faites d'une manière, pour ainsi dire, à la manière d'un historien, et d'un historien qui réfléchit vraiment à la matière qu'il traite, c'est... moi, je trouve ça splendide, je trouve ça très beau et très instructif aussi. C'est ça.
Deux, trois mots pour dire que dorénavant, est-ce qu'on va continuer à parler de la ligne du risque ou de la ligue d'improvisation? Je ne sais pas. Mais oui, y a un effet inattendu à la mise en télescopage de textes que vous avez semés comme un petit pousset au fil des ans dans différentes revues, hein, et la mise en ligne de tout ça par un historien après coup vous semble peut-être leur donner une importance à ces textes que vous ne voyiez pas à l'époque, ce qui est tout à fait pensable. La question méthodologique pour un historien, c'est de se dire, de se demander, est-ce que j'accorde une importance démesurée à des textes que l'auteur mesure autrement? Mais que ce soit ces textes ou que ce soit d'autres, ce sont autant de pierres que je trouve pour traverser la rivière qui va des années 45 à 65, par exemple. Mais on va donner la chance vraiment aux autres de parler. Monsieur?
Denis Vincent, moi je suis ni historien, ni philosophe, ni... J'ai 60 ans, mais ce qui m'a frappé dans votre exposé, c'est ce qui m'a plutôt emmené à des interrogations, votre exposé. Moi, je me demande si, au fond, ce que vous avez présenté comme des refus de Lobo, face à l'histoire, c'est pas tout simplement une mouvance dans laquelle on se promène, puis des fois, il y a un bout qui ressort, puis des fois, il y a un autre bout qui ressort. Ce qui me fait dire ça, c'est que je viens du pays de Duplessis, la Mauricie. Quand je vous dis, j'ai eu 60 ans, au moment où Duplessis a été dans sa gloire, je n'étais pas quand même très vieux, mais je n'ai entendu parler. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, quand on a pensé enterrer Duplessis et son âge noir, et je regarde maintenant la dernière élection qu'on vient de vivre, c'est vrai que c'est peut-être trop tôt là, pour jeter des ponts trop forts, mais des fois, je trouve que Dumont et compagnie, ça ressemble un peu à Duplessis. On l'avait-tu vraiment enterré, comme on a-tu vraiment enterré Groulx ou d'autres choses? Ou si, des fois, quand on regarde ça un peu avec le recul du temps, c'est pas plutôt de la mouvance qui, un moment, ou une grosse vague ou une mer, pas tout à fait agitée, mais un peu, mais à un moment donné, il y a un bout de vague qui retrousse, qui nous fait réagir, et à un autre moment donné, il y a un autre bout de vague qui retrousse, puis qui nous fait réagir. Tout ça dans un élan où, en éternel adolescent qu'on est ou qu'on devient à une certaine époque, on fait comme tout le monde, on rejette tout, mais 30 ans après, on n'a peut-être pas rejeté tant que ça.
Si j'essaie de trouver les termes autres que le perpétuel adolescent ou le retour de l'adolescent, il y a des périodes d'essoufflement qui permettent de dire ce que vous avez dit. 1966 a été un moment d'essoufflement face à la Révolution tranquille, il me semble. Il y avait eu beaucoup de changements en peu de temps et il y avait comme un certain retour du pendule. Et on peut se demander si les résultats de l'élection auxquels vous faites allusion, je ne vais pas me faire ici là, le commentateur politique, mais il me semble qu'il y a, peut-être un essoufflement. Il y a une fatigue subséquente à l'absorption de tant de changements, ne serait-ce que face à l'immigration, par exemple. Et après un certain temps d'encaissement, peut-être, il y a un moment de retour sur soi et d'affirmation de limites qu'il ne faut pas dépasser. Il y a une des questions qu'on se pose après avoir lu Bordua et Pierre Vadeboncœur, c'est de voir quelle a été la profondeur de la tradition critique au Québec. Hein? Un peu comme aujourd'hui, on se demande, face aux travaux qui vont peut-être bientôt commencer de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, où on a l'impression que la laïcité est quelque chose de bien établi au Québec. La pensée laïque, la réalité laïque. On pense que la Révolution tranquille a permis de liquider un bon nombre de choses, alors que, à vrai dire, ce n'est que depuis 3-4 ans que, sans changer la Constitution du Canada, on a transformé la Commission des écoles catholiques de Montréal en Commission des écoles francophones et anglophones. Hein? Si l'esprit laïque avait été à ce point introduit enfin par la Révolution tranquille des années 60, comment expliquer que ça a pris 45 ans pour qu'on pense et qu'on veuille prendre le temps de demander un changement dans le système scolaire. Je parle de la... J'ai parlé, je me suis demandé, jusqu'où y a-t-il au Québec une pensée critique, soutenue, continue, prenant de la consistance? De la même façon, je prends l'exemple qui nous touche plus aujourd'hui de la question de la laïcité. Parce qu'il me semble que une des causes de l'essoufflement intellectuel et civique, ou politique, si vous voulez, tient précisément à ça. Il me semble que, comme historien, ce que je vois, c'est au moment où les Québécois francophones qui se sont imaginés à s'être laïcisés rapidement et depuis longtemps, mais qui ont installé un système non religieux, qui n'est pas neutre pour autant, enfin bref, le mot précis est peut-être difficile à trouver, mais qui viennent tout juste de se donner un système non confessionnel d'éducation, ben, ces gens-là qui ont mis 40 ans à y arriver, tout d'un coup voient qu'au moment où eux ont enfin consenti à enlever les signes religieux d'un certain espace public, que d'autres de leurs concitoyens veulent les introduire, ces signes. Et c'est pour ça que je dis, nous allons nécessairement nous interroger à travers les mémoires qui seront soumis à la commission Bouchard-Taylor, nous allons nécessairement nous interroger sur ce qu'est véritablement le coefficient, le degré de laïcité réelle face à des signes qui arrivent peut-être pour une majorité de Québécois francophones qui arriveraient à contretemps. Il me semble que l'esprit critique, la tradition venue avec Bordua et d'autres, là, ça part pas de Bordua. Il me semble que ce sont ces problèmes qui sont brassés par ce dont nous avons parlé ce soir. Allons y penser. Chacun par soi-même. Et je vous souligne que si vous vouliez comprendre peut-être plus dans le détail ce que j'ai abordé ce soir, pour l'essentiel, le texte se trouve dans les cahiers des 10, qui est la publication annuelle de la Société des 10, de ces 10 historiens qui sont tous d'accord pour être ensemble. Alors, le texte est paru donc dans les cahiers des 10 et vous pouvez toujours aller, normalement, il devrait y avoir quelques dépliants à l'arrière pour vous fournir les coordonnées. Mais je n'en avais pas et on commence imparfaitement notre partenariat. Mais c'est publié par les éditions La Liberté. Et si vous allez à laliberté@raira.qc.ca, vous saurez comment vous procurer les cahiers si jamais la chose vous intéresse. Vous passez par votre libraire. Et lui connaîtra les voies pour y arriver. Alors, merci de votre attention. Et c'est la première de plus de 10 conférences que nous aurons en partenariat avec la bibliothèque. Bonsoir.